Vous allez bien? Un bel été? Pas trop chaud? Non, juste, hein? On va penser au mois de février. Là. On va se mettre un petit peu de chaleur en réserve en disant c'est bien correct comme ça. On va prendre le beau, le plus chaud, le plus frais. On va prendre tout ce que le Seigneur nous donne. Hey, merci Jean-Sébastien pour ton introduction et ça va exactement avec. Le sujet de ce matin, parce que tu parles de pièges pour nos cœurs, pour nos vies, et on va voir le sujet de la tentation. On est dans notre mini-série sur l'épître de Jacques, et j'hésitais en deux textes dans Jacques, là, j'en ai un en réserve, mais j'avais particulièrement à cœur d'enseigner Jacques 1, verset 13 à 17, avec en vue l'idée de la tentation. Comment ça fonctionne? Comment on doit résister? La tentation, c'est vraiment un sujet de base de la vie chrétienne. Hein? Dans les 6 premiers mois de ma vie chrétienne, j'avais entendu plusieurs enseignements et j'étais au tout début, mais j'étais informé puis conscient qu'il y avait une tentation qui était là, le péché qui pouvait être à notre porte et qui pouvait faire des dommages irréparables. Donc, on n'a pas vu les versets 1 à 12, mais dans le verset 1 à 12, il est question de l'épreuve. Est-ce que vous vous souvenez de Jacques 1, 4 ou un passage, ça parle de l'épreuve, c'est quoi donc? Que chacun de vous considère comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être. Donc, le mot épreuve revient à quelques endroits. Et dans les versets 1 à 12, l'épreuve est vraiment un test. C'est vu comme quelque chose de positif qui a pour but de nous faire grandir puis de nous amener à la maturité. Donc là, ce n'est pas une tentation, c'est un test, une épreuve. Mais la ligne de démarcation est très mince entre une épreuve qui vient de Dieu pour m'amener à grandir et une tentation, une incitation au mal qui va malheureusement m'amener à pécher. Dans notre raisonnement humain, il est possible qu'on se dise est-ce que c'est Dieu qui m'a amené à pécher? Hein? Il m'a amené dans cette situation-là. Il pensait que ça allait être une épreuve pour moi, que j'allais passer le test, puis passer à un autre niveau, puis je n'ai pas passé mon examen. Donc, j'ai chuté devant la tentation. Et devant cette possibilité-là, Jacques, qui écrivait à toutes les églises, spécialement juives, de la diaspora qui était répandue tout partout, puis qui vivait de la pauvreté, qui vivait des épreuves d'une façon incroyable. Hein? Suite à la persécution d'Étienne, la plupart des chrétiens juifs ont été expulsés de Jérusalem. C'était dans le plan de Dieu d'aller dans Samarie jusqu'aux extrémités du monde, mais leurs conditions étaient vraiment, vraiment difficiles. Et les gens pouvaient dire, est-ce que c'est Dieu qui m'amène à pécher? C'est Dieu qui me met ces conditions difficiles-là. En première partie de notre étude ce matin, on veut voir ce sujet-là. Est-ce que Dieu est la cause du mal qui nous arrive? Hein? À qui la faute? Qui est responsable pour le mal et la souffrance qui nous entoure? On a tendance à croire que Dieu est comme les hommes. Hein? Bien des fois, quand on lutte avec Dieu et qu'on pense que Dieu ne se soucie pas de nous, que Dieu n'est pas à l'écoute, que Dieu est trop dur envers nous, on a tendance à penser que Dieu est comme les hommes qui nous entourent, que Dieu va agir comme les gens qui ont eu un impact même négatif dans nos vies. Tu as eu un père céleste très dur culpabilisant, ben émotionnellement, tu as tendance à penser que Dieu est comme ça. Des proches indifférents, tu penses que Dieu est lointain. Et avec notre raisonnement humain, avec ce qu'on ressent, on ne comprend pas pourquoi Dieu fait telle chose ou pourquoi il ne fait pas telle autre chose. Et on ne comprend pas que notre Dieu, hein, on chantait Dieu, il était quoi dans le chant? Dieu était fort et puissant, tu sais, sa capacité, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet des choses. Et c'est un peu normal parce que Dieu est tellement grand. S'il n'était pas si grand, il ne serait pas Dieu. Et ce qu'il fait, sa façon d'agir nous dépasse. Hein? On ne peut pas tout rationaliser. Ce n'est pas un casse-tête qu'on met tous les morceaux à sa place et on dit « Ah, voici le tableau, j'ai tout est clair pour moi. » On a des réponses dans la Bible, mais pas surtout. On a certaines réponses qui ne nous satisfassent pas toujours. Mais l'être humain, croyant ou non, on ne peut pas toujours vivre sans réponse, sans explication, sans comprendre. Et c'est pourquoi les choses doivent avoir un sens. On veut des réponses et il y a un vide qu'on a besoin de combler. Et on va combler ce vide-là en trouvant nos réponses. Quand survient des épreuves, des difficultés, là, on parle de grosses choses dans nos vies, un accident qui va vraiment nous laisser avec un handicap permanent qui va changer notre vie, avec la maladie, un divorce qui est déchirant, quand on vit des blessures du cœur, un rejet, on cherche des réponses et on va en trouver. Mais les réponses qu'on va trouver ne sont pas toujours les bonnes. Ceux qui luttent avec l'existence de Dieu, qui ne savent pas vraiment si Dieu existe, que par moment, ils voudraient croire, mais quand ils regardent autour d'eux, ils disent « Non, non, ça ne se peut pas. » Ils se demandent souvent hein, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrance sur la terre? Une citation célèbre d'Albert Camus, cet auteur philosophe, qui disait que lui, il ne croyait pas que Dieu existait, mais il dit « Si Dieu existe, il est pire que Satan. » Oh, toute une déclaration. Parce qu'il a la capacité d'empêcher le mal et qu'il ne le fait pas. Ça donne à réfléchir. On n'est pas d'accord avec cette façon de penser-là, mais c'est quelqu'un qui cherchait à voir les choses et à trouver ses réponses. Et le raisonnement de ceux qui ne sont pas croyants, ils disent, si Dieu existe vraiment, s'il est ce qu'il prétend être, hein, Jésus, puis le Nouveau Testament avec toute la beauté de Jésus, s'il est amour, s'il est tout-puissant, pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre? Il a la capacité d'empêcher la souffrance et il ne le fait pas. Et souvent, ces gens se tournent encore davantage contre Dieu. Les non-croyants ont tendance à en mettre beaucoup, hein, d'en mettre pesant sur le dos de Dieu. Quand Dieu dispense ses bienfaits jour après jour pendant des années, c'est juste normal, c'est un acquis, c'est le minimum. C'est la moindre des choses. Mais dès que survient une tempête, une sécheresse, un temps difficile, les gens, en pensant que Dieu existe, ils accusent Dieu. Dieu en est le responsable de leur malheur et ils le rejettent et souvent leur conclusion, ça va être « c'est impossible que Dieu existe ». Et nous, comme enfants de Dieu, on trouve parfois nos réponses en dehors de la parole de Dieu. Parfois, on a besoin d'accepter de ne pas avoir les réponses et de faire confiance à Dieu. De savoir que on ne comprend pas, on a de la misère à accepter, mais savoir qu'il est au contrôle et qu'on a juste besoin de faire confiance à Dieu, d'ouvrir notre cœur et de voir ce qui va répondre dans le temps. On ne comprend pas tout et on peut douter de la bonté et de la sagesse de Dieu. Tout un combat. Et pourtant, on peut comprendre certaines choses. Premièrement, on peut s'aider en comprenant, en voyant tout le Nouveau Testament, on peut comprendre que le ciel, c'est pour quand? Le ciel, c'est pas maintenant. Maintenant, on est où? On est sur la terre. Le ciel, c'est pour plus tard. Il y a la vie sur la terre et ensuite vient le ciel. Et il y a Pierre et plusieurs, même Jésus lui-même disait que la souffrance et la gloire. La souffrance et la gloire. C'est dans cet ordre-là. Et la gloire sans souffrance, dans la félicité, le bonheur parfait, complet, c'est quand on va être dans la présence de Dieu. Présentement, c'est la marche par la foi. La parole de Dieu dit, vous l'aimez sans l'avoir vu encore. On marche par la foi. On a les certitudes à cause de Jésus, à cause de la parole, à cause du Saint-Esprit, mais ce n'est pas notre réalité avec nos yeux. Et plus tard, on va le voir face à face et on va vivre avec lui dans l'éternité. Donc, il faut comprendre que c'est normal, chaque chose en son temps. Même si ça peut être long hein, de dire oui, on est sur la terre et il y a plein de choses qui ne se passent pas comme on aimerait, puis il y a plein de choses qui amènent la souffrance. Autre chose qu'on peut comprendre aussi, c'est que l'homme est le grand responsable d'une très grande partie de tous les malheurs qu'on voit. La pauvreté, la guerre, on voit ce qui se passe en Ukraine. Hein, c'est devenu un fait banal. On écoutait la radio puis on disait, moi, je disais à Sylvie, pauvre Ukrainien, hein, il y avait la sympathie puis l'appui du monde entier. Là, on est rendu, je ne sais pas, 140, 150 jours. Écoute, il fait chaud au Québec puis le prix du lait augmente. Ça fait que notre capital de sympathie est parti. La guerre, la misère, la souffrance, les dictateurs qui oppriment tant de pays, les capitalistes hein, qui sont toujours de plus en plus gourmands, qui contournent les règles, qui volent les gens, qui fait que sur la terre, il y aurait assez de nourriture, il y aurait assez de pour voir à ce que tout le monde soit en santé puis mange bien. Les gens qui violentent, qui intimident leurs prochains, la liste est interminable. Et ce qu'on met la faute sur Dieu, hey, on peut dire que l'homme, il fait plus que sa part. Il y a des choses qu'on ne comprend pas de Dieu, mais on peut voir que l'homme est vraiment à l'origine de la grande majorité de tout ce qui est mal. C'est l'homme qui opprime l'homme et il met la faute sur Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et notre Dieu, et c'est merveilleux, et on le voit tellement dans la personne de Jésus, notre Dieu a décidé de laisser à l'homme la liberté d'action. On pense à Ecclésiaste 8 qui dit « Parce qu'une sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas promptement, quand tu pêches, le feu du ciel ne tombe pas sur toi, le cœur de l'homme est rempli au-dedans de lui du désir de faire le mal. » Fait quelqu'un peut faire le mal pendant 20, 30, 50 ans, puis qu'il meurt à 90 ans, puis il n'y a rien qui y est arrivé. Dieu a décidé de laisser l'homme libre. L'homme peut décider de faire le bien ou le mal. Il peut décider de se tourner vers Jésus comme sauveur ou de le rejeter. Et notre Dieu a décidé de laisser toute la durée de la vie de chaque être humain pour faire des choix. Hein? On ne sait pas si ça va s'arrêter à 40, 50 ou à 80. On n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, on n'a pas à rejeter la cause des malheurs sur Dieu. Donc, premier point qu'on voulait voir, un genre de sommaire. Hein, je n'ai pas encore pris ma... Ah! Hein, un beau ménage. Oui. Oui. Donc, si on va dans notre passage au verset 13, on va commencer par lire le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. On veut faire la différence entre le mot « tentation » et le mot « épreuve ». Et il y a vraiment une différence entre ces mots-là, « épreuve » qu'on voit au verset 2 et 3 et au verset 12, 13, 14 qu'on voit le mot « tentation ». Donc, l'épreuve, c'est une situation provoquée pour permettre de juger des qualités d'une personne. Et quand on a des épreuves dans notre vie, le but de Dieu de les permettre, ce n'est pas de nous faire tomber, c'est de nous faire grandir. Et c'est le sens qu'on a, versets 1 à 12. Au niveau de la tentation, c'est ce qui pousse à enfreindre une loi morale, c'est une incitation à faire le mal. Et c'est le sens ici au verset 13. Et pourtant, dans le texte original, c'est exactement le même mot. Mais il y a vraiment ces deux sens-là. C'est le contexte qui est clair et tous les traducteurs de la Bible ont vraiment traduit de cette façon-là. Comment faire la différence entre les deux? On le voit au niveau du contexte et au niveau de tout ce qu'on voit dans la Bible. Dieu permet l'épreuve, mais il ne désire jamais nous conduire dans le péché. Dieu n'est pas la source du mal. Comme la démarcation pour les chrétiens entre l'épreuve et la tentation est mince, il y avait sûrement plusieurs chrétiens qui pouvaient se dire que finalement, c'est Dieu qui nous incite au mal. Et Jacques veut rectifier cette idée-là en donnant deux raisons pour lesquelles Dieu ne nous incite pas au mal. La première, c'est que Dieu ne peut pas être tenté, dans le sens que le mal, l'incitation au mal, ça n'a pas d'effet sur lui. Il ne peut pas être séduit et amené à faire le mal. Pour lui, le fait de faire le mal, que ce soit pour Jésus ou Dieu le Père ou le Saint-Esprit, ça ne dit rien. C'est un peu comme si vous m'offrez une cigarette et que vous m'incitez à prendre une puff, là, écoute, je les sens 10 pieds, 10 mètres à la ronde, puis déjà, ça me lève le cœur. Ça fait que si vous me proposez ça, là, ça n'a aucun effet sur moi. Ben Dieu, tout ce qui est mal, ça n'a absolument aucun effet sur lui. C'est intéressant de voir la tentation de Jésus, hein? Jésus qui est Dieu à 100%, qui est le Fils de Dieu. Jésus, au désert, il a été amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Est-ce que le Saint-Esprit puis Dieu le Père avaient un rôle à jouer dans le scénario de la tentation? Non, non, il n'y avait aucune hésitation à faire le mal. Dieu le Père, par le Saint-Esprit, voulait que son Fils puisse passer par cette épreuve, par ce test, pour manifester son caractère saint. C'était sa volonté. Et le diable, lui, son but, c'était de faire chuter Jésus. Donc, la tentation était bien réelle, Mais la possibilité que Jésus cède à la tentation, ça, c'était nul, c'était zéro. Donc, Dieu, dans sa nature, il ne peut pas être tenté et à cause de sa nature, il ne tente lui-même personne. Dieu est saint. La sainteté, c'est dans ses attributs les plus précieux. Puis parce qu'il ne pêche pas, parce qu'il est le péché, jamais Dieu va encourager quelqu'un à pécher. De plus, pour Dieu, il n'y a rien de plus horrible, de plus tragique que le péché, parce que le péché était tellement grave que ça l'a amené dans son plan à envoyer son fils mourir sur la croix, souffrir hein, pendant le champ. On voyait les images d'un film de Jésus, là, puis ça me rappelait comment c'est triste, c'est souffrant, c'est douloureux pour des chrétiens de voir Jésus qui est là en train de souffrir pour nous. Et ça l'était. Et ça, c'était à cause du péché que Jésus a souffert comme ça. Donc, non, Jésus, Dieu ne tentera lui-même jamais personne. Donc, ça veut dire que comme croyant, on ne peut pas dire, hey, écoute, oui, j'ai péché, j'ai tombé, il y a eu des conséquences, mais il fallait que je passe par là. Écoute, Dieu avait tracé un chemin, là, puis c'est impossible que je résiste. Là. Dieu m'a fait pécher pour que j'apprenne cette leçon-là. Non, Dieu ne nous fait pas pécher et il ne voulait jamais que l'on pêche. Notre Père Céleste a laissé ce commandement. Hein? Vous serez saints car je suis saint. C'est son désir qu'on marche dans l'obéissance et dans la sainteté. Mais de tout temps, l'homme a voulu un peu mettre la responsabilité de ses fautes sur quelqu'un d'autre. Au tout début de l'humanité, Adam, après avoir péché, disait à l'Éternel, « C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. » Ève disait, « C'est la faute du serpent. » Et depuis ce temps-là, c'est toujours la faute d'un autre. Et on peut dire, ben c'est la faute de Dieu. Dieu a un rôle à jouer. Dieu n'a pas empêché. Dieu m'a pas protégé. On veut mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et Jacques nous enseigne clairement que non, on ne peut pas penser. Avant de voir le centre, les versets 14 et 15, Jacques donne une réponse au verset 16 et 17. D'un verset, là, il y a plusieurs, quelques beaux chants, mais bien des fois, on dit, ce verset-là, ça fait des beaux chants. Là, je pense à un chant de Steve Green, que c'est ces paroles-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va le lire. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ce que ça veut dire, c'est que les bonnes choses, ils viennent de Dieu. Que Dieu, il n'a pas changé, puis il ne change pas un petit peu. Donc, il n'est pas la source du mal. Il n'induit personne à pécher. Tout ce qui vient de Dieu, c'est bon. C'est très bon, c'est même parfait. Les dons de Dieu sont parfaits. Ça exclut toute possibilité de faille au niveau moral. Il y a seulement du bien qui vient de Dieu. Donc, il n'y a pas un peu de mal ou une incitation au mal. Et ça parle du Père des Lumières, ni ombre de variation. Et l'image, c'est l'image d'un astre dans le ciel et cet astre-là n'a pas une ombre de changement. Fait, Dieu a toujours été du côté du bien. Il n'incite personne et ça ne changera jamais. Donc, on termine ici la vérité que Dieu n'est pas la faute du mal. Si ce n'est pas Dieu à qui on met la faute, on la met sur qui? C'est nous, hein? On a une grande part à jouer dans ça. Versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Hein? On voit quatre étapes ici, et c'est vraiment, quand on lit ça, puis qu'on est dans le combat de la tentation, ou quand on vient de chuter, je me souviens souvent après avoir tombé, puis avoir fait des choses que je n'étais pas fier de moi, je lisais ce verset-là, là, puis j'avais encore plus la mort dans l'âme, là, la mort spirituelle. Là, là. Je ressentais profondément ce que voulait dire cette phrase-là. Il y a de ça plusieurs années, un comédien américain qui fait des sketchs aux États-Unis a rendu une phrase célèbre. Hein, c'était « The devil make me do it hein, ». C'est le diable qui m'a fait faire ça. Il y avait des sketchs où on voyait une femme aller acheter une robe dispendieuse, des bijoux, un manteau de fourrure. Dans ce temps-là, les manteaux de fourrure étaient plus populaires. Et après, la femme, à la fin, disait « The devil make me do it ». Ne jamais dire « C'est le Seigneur qui m'a fait pécher ». C'est un mensonge. On veut mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mais on peut, Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, donc on a besoin de se demander quel est le rôle de Dieu, hein? Qu'est-ce qu'il fait, il est-tu au courant, il gère-tu un peu, qu'est-ce que fait Dieu pendant la tentation? Premièrement, on voit que Dieu permet la tentation. L'Esprit a conduit Jésus au désert pour qu'il soit tenté par le diable et ça allait faire resplendir, faire ressortir l'identité que Jésus est vraiment le Messie. Donc, Dieu permet, il l'a permis pour Jésus et il le permet dans nos vies. Ensuite, Dieu contrôle l'intensité de la tentation. Et là, peut-être tout de suite comme moi, vous pensez à Job. Hein? Satan, Dieu a dit à Satan, ne va pas plus loin que telle limite. Tu peux toucher à ses biens, tu peux toucher à sa femme, à ses enfants, mais lui, tu n'y enlèves pas la vie. Dieu établit une limite précise. Et Dieu, la même chose pour nous, il nous voit, il nous aime, il se soucie de nous et il établit des limites. Sur la durée, sur l'intensité. Ensuite, on voit que Dieu soutient le croyant afin qu'il en sorte victorieux. Quel bel exemple avec l'apôtre Pierre, hein, Simon-Pierre. Jésus a dit à Simon, après que Simon a dit, « Écoute, si les autres t'abandonnent, moi, là, je t'abandonnerai pas, tu sais, puis moi, je vais être meilleur que les autres. Moi, jamais ça va m'arriver. » Et là, Jésus a dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc, Jésus était là pour amener une protection dans la faiblesse. Il fait la même chose envers nous. Notre Père céleste ne nous abandonne pas à lui-même. Il y a un soutien, il y a une protection. Et s'il y a un verset qui résume un peu toutes ces vérités, c'est 1 Corinthiens 10, 13 hein, qu'on connaît bien. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Ça veut dire que ce n'est pas impossible d'y résister. Ce n'est pas trop dur. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Wow! Quel beau verset! Quel verset complet avec un encouragement et le fait qu'on peut aller à l'aide de la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, faire face aux situations de la vie en étant positif, en étant encouragé, en dépendance de Dieu, de dire « Seigneur, je suis capable d'affronter telle situation, même si je m'en sens totalement, me sens dépourvu, faible, incapable. En m'appuyant sur ta parole, sur ta promesse, tu vas être là avec moi. » La prière du Notre Père exprime bien, hein? « Ne nous induis pas en tentation, ne nous introduis pas, ne nous pousse pas dans la tentation. » Ça exprime le désir du chrétien de ne pas pécher et en même temps une dépendance envers notre Dieu pour notre sanctification. Mais délivre-nous du mal. Généralement, on identifie les trois sources de la tentation comme étant Satan, le monde et la vieille nature. Et c'est tout à fait vrai. Satan et ses démons sont là pour nous amener à pécher. Et son but, tout ce qu'il veut faire, Satan, autant qu'il peut le faire, c'est d'atteindre, de diminuer la réputation de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous, ses enfants, le nom de Jésus est associé à nous. Et quand on pêche, ça affecte, ça atteint la réputation, la gloire de notre Dieu. Et c'est pour ça qu'il va s'en prendre aux enfants de Dieu. C'est un peu personnel, mais moi, dans ma vie chrétienne, j'ai toujours eu tendance à fixer mes yeux sur Jésus et à mettre mon attention sur lui plutôt que sur Satan. Satan, il a deux stratégies. Soit qu'il veut qu'on ignore totalement sa présence, puis qu'on ignore son action pour pouvoir agir librement. Donc ça, c'est un extrême. Mais l'autre extrême, et les chrétiens, on est très bons pour tomber dans ça, c'est d'augmenter, d'amplifier son action, sa puissance qui fait qu'on est concentré sur Satan. Donc quand je vis ma vie chrétienne, j'aime être conscient que Satan est là, on n'ignore pas ses desseins, il veut nous diviser, il veut nous attaquer, il veut nous amener à pécher, mais mes regards sont sur Jésus. Quand j'étais en voiture, là, sur l'autoroute, quand je m'en venais, quand je regarde les deux lignes, la ligne du centre puis l'auto en avant, je sais que je vais toujours suivre le chemin. Mais si je passe mon temps à regarder sur le côté, là, il y a des bonnes chances, en fait. C'est la même chose avec Satan et avec Dieu. On veut fixer les yeux sur Jésus. C'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Donc, oui, on est conscient que Satan est l'une des trois sources de la tentation, mais il n'est pas le tout-puissant et on n'est pas à sa merci. Deuxième source, le monde. Hein, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Et le monde, il faut faire attention. Hein, quand j'étais jeune chrétien, je voulais presque fuir les gens parce que aussitôt que c'était un peu associé à quelque chose, ah, c'est le monde, ça, il faut que je m'éloigne de ça. Le monde, en fait, c'est quoi? C'est le système qui nous entoure, dont la pensée est contraire à la volonté de Dieu. Que les vérités qui sont émises dans la parole, qui sont claires, tu vois, dans la société, il y a des bonnes choses, mais il y a des très mauvaises choses. Donc, le monde qu'on doit s'abstenir, c'est toute cette pensée-là qui est contraire à la pensée de Dieu. Et face au monde, la solution, ce n'est pas l'isolation, hein, ce n'est pas de se retirer puis de vivre dans notre petit coin. Jésus lui-même nous a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal ou dans certaines versions du malin. Même si les trois sources du mal agissent ensemble par une combinaison de facteurs, dans ce passage-là, avec vérité, puis avec vraiment une précision, l'emphase est mise sur la vieille nature, notre chair, notre moi. Hein? Et dans le passage, ça dit que c'est par sa propre convoitise. Un accent est mis sur ce qui se passe dans notre cœur fragile au moment de la tentation. Comment on peut céder? Dans le passage, on voit le progrès de la tentation. Le chrétien est mis devant la tentation, en contraste avec la fausse idée que Dieu pourrait être à l'origine de la tentation. Jacques nous dit que c'est en nous principalement que ça se passe. C'est dans notre cœur que se trouve l'origine du péché. Donc, ici, l'enseignement à retenir, c'est qu'on est responsable de notre péché. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute des autres ou de la société, mais c'est la faute. Hein? On doit dire, écoute, qui est responsable de ça? C'est moi. C'est moi. Oui, il y a toutes sortes de facteurs qui ont joué, les circonstances, des gens qui n'ont pas aidé, Dieu qui a permis, mais principalement, Jacques nous dit, comprends que c'est toi, c'est ta propre convoitise qui est responsable de notre péché. Au verset 14 et 15, on voyait les quatre étapes de la progression du péché. Le premier, c'est le fait d'être attiré. Chacun est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Donc, c'est nos mauvais désirs, nos convoitises qui attirent notre attention, qui fait que tel péché va avoir un attrait pour nous. On dit, ah, ça m'intéresse, je vais aller voir un peu plus près, hein? Je vais beaucoup à la pêche, puis quand tu envoies une belle troll, là, puis que la troll, elle tourne, puis elle brille, là, puis ça a la forme d'un poisson, la truite est là, puis oh, son attention est attirée. Pensons à toutes les choses qui, personnellement, nous attirent. La vue des choses qu'on veut acquérir. Ça peut être la vue de la nourriture, ça peut être la silhouette des gens, la convoitise des yeux. On peut avoir toutes sortes de mauvais désirs. Et 2 Pierre 1, 4, hein, j'aime tellement ce verset que je me remémore, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, par le fait de voir, et même si on ne voit pas, par le désir de posséder, d'avoir une chose que parfois on n'a pas besoin d'avoir, qui est mal de vouloir cette chose-là. Donc, la convoitir, un désir immodéré de posséder. Important, on va faire un petit point ici. C'est la première étape. Il n'y a pas encore de péché. Il y a peut-être quelques luttes, quelques mauvaises pensées, mais il n'y a rien de fait, là. Il n'y a rien de mal. Il est encore temps d'arrêter, puis de reculer, puis de dire, OK, je me détourne, puis je décide que c'est non. Et j'aimerais attirer votre attention spécialement sur un point. Pourquoi nous compliquer la vie en développant des convoitises, en développant des nouvelles convoitises, en développant des occasions de chute? Quand je préparais le message, je disais, j'ai déjà assez de problèmes à lutter avec les quelques convoitises qui sont vraiment concrètes pour moi. Je n'ai pas besoin de m'en développer d'autres. Fait, des fois, il y a des occasions de commencer d'ouvrir une petite porte, me dire, hey, Richard, tu as déjà assez d'ouvrages, assez non. Puis on a toutes, je dirais, 2 ou 3, peut-être juste une, mais 2 ou 3 objets de convoitise qui amènent des luttes dans nos vies et on les connaît. Et ils sont déjà là, on lutte avec. Pourquoi s'en développer des nouvelles? Tu n'es pas attiré par les drogues douces ou les fortes. N'y va pas, n'essaye pas ça. Ne dis pas, oh, je vais l'essayer juste pour voir. Hein, le pot, c'est légalisé. Puis, pourquoi développer? Oui, il y a un thrill. Oui, il y a une adrénaline. Mais quand on ouvre la porte comme ça, on va toujours être perdant. Tu vas détruire ta vie, tu vas détruire la vie des proches. Donc, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de tentation, tu es neutre face à des occasions de chute, bien, ne les développe pas dans ta vie. La convoitise sexuelle, une pratique de la sexualité en dehors de ce que Dieu veut pour toi, de ce qui est saint, n'y va pas, n'ajoute pas à tes problèmes cette nouvelle occasion de lutte. Tu es malheureux dans ton couple, tu n'es pas épanoui, ne cède pas à la tentation de flirter, d'ouvrir des portes dans ton cœur qui plus tard vont t'amener à peut-être à l'infidélité ou à compliquer. Ça va déjà assez mal dans ton couple. Travaille à ce que ça aille mieux, mais cède pas à ces tentations-là. Si tu n'es jamais allé de ce côté-là, n'y pense même pas. Regarde pas la télévision en disant, « Hey, dans ce film-là, dans cette série-là, ils ont vraiment l'air à vivre quelque chose de beau, de grand, là, en trompant leur conjoint. Puis, waouh, j'aimerais vivre ces... » Non, c'est Hollywood, c'est le cinéma, c'est pas la réalité. Quand ils reviennent devant leurs femmes, quand ils reviennent devant leurs enfants dire ce qu'ils ont fait, là, c'est le pire jour de leur vie. Ne pas ouvrir de pas comme ça. Ne pas jouer, pas dire, ah, je ne tromperai pas mon conjoint, mais ça me donne un plaisir de penser, puis de parler un peu avec la personne, puis là, on est un peu trop proche. Non, joue pas avec le feu. Ce que je veux vous dire, c'est de dire non dès le départ, avant d'être attiré. On a nos luttes, on a nos convoitises, on ne veut pas s'en fabriquer une nouvelle. Attiré par sa propre convoitise, n'en développe pas une nouvelle. Travaille à faire mourir celle que tu as, mais n'en pas des nouvelles. Bien des chrétiens croient que parce qu'ils sont tentés, bon, de toute façon, c'est comme si je l'avais déjà fait, j'y ai pensé, et qu'ils sont aussi bien d'aller jusqu'au bout, puis ça va être réglé, puis après ça, je vais demander pardon à Dieu, puis je vais arranger des choses, puis je lutterai pas avec ça. Quelle mauvaise façon de penser. Quel mensonge. Si tu y vas une fois, deux fois, trois fois, ça va être énormément, tellement plus dur de dire non encore la prochaine fois. Donc, ce n'est pas parce que tu es tourmenté et que tu as été troublé que tu as péché. Et c'est toujours le temps d'arrêter maintenant. Satan est bon pour nous mentir. Avec ses démons, de nous mettre dans la tête, de dire, regarde, tu y as pensé, tu l'as imaginé, coudonc, je ne te lâcherai pas, puis ça n'arrêtera pas tes luttes tant que tu ne le feras pas. Ben, fais-le. Quel mensonge! Comment on fait? Quand on est attiré, on vient devant le Seigneur. On lui dit ce qu'on vit. Puis on demande au Seigneur avec foi, « Seigneur, aide-moi à résister à la tentation. » On peut lire la parole, on peut voir comment Jésus a résisté aux trois épreuves, aux trois tentations qu'il a eues dans le désert, de dire « Seigneur Jésus, aide-moi, c'est pas si grand, ça ne fait pas 40 jours que je n'ai pas mangé. » Je suis capable de résister, de lire 1 Corinthiens 10-13 qu'on voyait tantôt, de dire oui, tu donnes un moyen d'en sortir, puis je veux prendre ce moyen-là, puis je veux être victorieux par toi. Deuxième point, rapidement, on va terminer. amorcer. Amorcer, c'est un pas plus loin. Là, on est comme craqué. Là, on le veut, puis il semble qu'on ne peut pas résister. On se laisse convaincre. Le mauvais désir grandit jusqu'au point qu'on a été séduit. Puis là, dans notre tête, là, on se dit « je le veux absolument ». Et pour continuer notre exemple avec notre poisson, après avoir vu la troll, là, il est en route. Là, il nage plus vite, puis là, il se prépare à sauter sur l'appât, à tomber dans le piège. Pour tout chrétien, ce dernier moment avant de pécher est déterminant. C'est la dernière chance de dire non. C'est toujours possible de dire non, peu importe là où on est. Plus tard, ça va être plus difficile encore, mais maintenant, tout est encore possible. Troisième étape, la naissance du péché. Avant ces étapes-là, il n'y avait pas de péché. Maintenant, c'est comme si la grossesse de la convoitise amène la naissance du péché. Et là, c'est le moment que le poisson, là, il mord l'appât. Trop tard. Il est pris. Et la dernière étape, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort pour l'éternité. Mais le salaire du péché, après avoir péché, on vit la mort spirituelle avec la douleur, le remords, la souffrance, avec toutes les conséquences que ça va amener. Et là, on devient lucide. Quand on était attiré, amorcé, tenté, on pensait pas aux conséquences-là. On voit les personnes à qui on va devoir avouer ce qu'on a fait, les gens à qui on va devoir demander pardon, la correction pour réparer ce qui a été brisé. Et là, on vit tellement la mort dans l'âme. Il y a une tristesse profonde. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé. Suite au péché, le chrétien doit réagir le plus rapidement possible. Même si c'est la dernière chose qu'on a le goût de faire, on a besoin de confesser notre péché à Dieu. Demander pardon, rétablir la communion avec Jésus. Voir qu'autant que Jésus est attristé de notre péché, autant il ne nous abandonne pas, il ne nous condamne pas, il est mort sur la croix, puis il veut qu'on se relève tout de suite. On a vécu, chacun d'entre nous, dans nos vies au fil des années, ces quatre étapes-là. Ça peut être de contracter des dettes inutiles qu'on empruntait de l'argent, puis on savait qu'on ne devait pas le faire, puis là, on arrive devant le constat. Ça peut être de faire un vol, un acte malhonnête, ça peut être de céder à l'abus de l'alcool, à la drogue, ça peut être de se laisser contrôler par les jeux de loterie qui détruisent tellement de familles. Ça peut être de mettre devant nous des images qui conduisent à l'impureté sexuelle, à l'infidélité, peu importe les passions qui luttent en nous, peu importe où on en est, on peut et on doit se détourner du péché, des passions et commencer le saint combat où on va dire non. Puis si on en est absolument incapable, ce qui est le cas, on se tourne vers Jésus. On demande au Saint-Esprit de nous donner sa force, sa puissance pour abandonner, se détourner du péché puis de ses passions. Tout un verset, hein? 1 Pierre 4, 1 et 2, qui nous dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, Et ça nous dit que Jésus, lui, a lutté. Et nous, on a besoin de s'armer de la même pensée. Il faut lutter contre le péché. Il faut affronter le péché en étant conduit et rempli de l'Esprit de Dieu. On a besoin de dire non une fois puis d'être victorieux. Puis il va falloir souffrir la tentation pour dire non une deuxième fois. On a besoin de s'engager dans la lutte contre le péché. On a besoin aussi d'être sage, de ne pas jouer avec le feu. Apprendre à dire non dès le départ. Être tenté n'est pas péché. Dire oui et céder totalement à la tentation, ça, c'est péché. On a besoin d'être sage, de prendre les expériences qu'on a vécues et de dire, Seigneur, donne-moi une intelligence spirituelle. Donne-moi cette sagesse dans ma marche avec toi. De dire qu'autant il y a comme un attrait là, qui peut m'attirer, autant non, je ne veux pas aller là parce que ça t'attriste, ça va briser ma vie, je vais détruire la vie de ceux qui m'entourent et en ayant cette lucidité, cette clairvoyance-là, on dit, écoute, ça n'en vaut vraiment pas la peine et je décide de dire non. Et la vérité principale qui était dans ce passage-là, c'est que ce n'est pas Dieu qui nous pousse à pécher. La tentation ne vient pas de lui. Donc, c'est à nous la faute, c'est notre propre convoitise et c'est à nous de se prendre en main en dépendance de Dieu. Mais si on ne demande pas au Seigneur de nous aider, le Seigneur nous laisse libre dans nos actions. Donc, j'espère que c'est des outils que vous mettez dans votre coffre, dans votre bagage, et que le moment venu, le Saint-Esprit va être capable de vous ramener les vérités, de vous ramener les versets et de dire non, Seigneur, je vais glorifier, je vais avoir la paix, la joie, je vais marcher avec toi. En étant rempli du Saint-Esprit et je ne dirai pas oui à ces choses-là pour me mettre inutilement dans le trouble, pour te déshonorer. Puis le péché, c'est mal. Le péché, c'est la mort. On a besoin de s'armer de cette pensée-là. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu as affronté le péché pour nous. Tu avais et tu as encore une sainte horreur du péché. Et toi qui étais saint, tu as été fait péché pour nous, nous dit la parole. Seigneur Jésus, juste en regardant à la croix, on a toute une motivation pour dire non. Non au péché. Seigneur, aussi, ce que tu nous demandes de faire, ce que tu nous dis de ne pas faire, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on soit heureux. C'est tes commandements, c'est tes prescriptions qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir vivre la joie, la paix, l'amour avec toi et avec nos proches. Seigneur Jésus, donne-nous cette intelligence, donne-nous ce discernement, donne-nous de voir venir ces tentations et tout de suite de porter un jugement, de faire une évaluation. On dit non, il n'est pas question que je fasse un pas de plus. Je veux me détourner, je ne veux pas être attiré, amorcé et ensuite tenté au point de tomber. Merci pour ta grâce. Merci parce que ta parole nous dit que tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur Jésus, merci pour la façon que tu agis dans nos vies. Tu nous laisses libres, mais tu ne nous abandonnes pas. Et on veut bien utiliser cette liberté que tu mets dans les circonstances de nos vies. À toi la gloire, Jésus. Amen. Merci.